Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse. Avec trois confrères travaillant dans les autres médias, nous balayerons l'actualité de cette semaine avec ce qu'il y a eu d'important, notamment le bilan des opérations conjointes FARDC armées rwandaises, ainsi que l'intégration hier jeudi à Rumangabo, au nord Kivu, des troupes du CNDP dans l'armée nationale. Comme deuxième thème, nous aurons le procès Thomas Lubanga qui se déroule à La Haye aux Pays-Bas. Enfin, la motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale de Mbandaka dans l'Équateur contre le gouverneur José Makila. Nous analysons ces thèmes avec Talala Chimankinda, éditeur de l'hebdomadaire Tendance, paraissant ici à Kinshasa, Fidèle Moussango, coordonnateur du quotidien chinois Le Phare. Il intervient aujourd'hui à partir de Goma, au nord Kivu. Et depuis aussi Goma, au nord Kivu, intervient Maduro Apaluku, directeur général de Radio Kivu, une nouvelle radio de Goma. Avant d'entrer dans les vifs de l'émission de ce soir, jetons d'abord un coup d'œil sur l'actualité, telle que traitée cette semaine par les principaux journaux parus à Kinshasa. Pierrot et Lamégie, notre confrère, les a lus pour nous, le condenser dans cette revue de presse.
Les opérations militaires conjointes FARDC armée rwandaise contre les FDLR ont figuré à la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Sur le résultat partiel de cette opération FARDC-APR, le FARC a qualifié la mention de maigre. Le quotidien estime que beaucoup de gens ne croient nullement qu'en 15 jours, les Congolais et Rwandais pourraient boucler les dossiers FDLR. Pour le potentiel, la réintégration ANC-CNDP-Maïmaï est un choix hasardeux, car selon le journal, le mixage et le brassage ont démontré leurs limites et leurs inconvénients, il faut alors changer de stratégie. Mais cette opération a connu un couac, note le palmarès. Les quatre représentants de la facilitation internationale qui accompagnent les processus de paix ayant quitté la cérémonie à l'arrivée de Bosco Ntaganda. Pour le palmarès, c'est un signe clair des protestations contre la présence des normes qui est sous mandat d'arrêt de la CPI. Et cela, dit-il, constitue un véritable dilemme pour Kinshasa. Sur ce point, le journal L'Avenir désapprouve le geste des diplomates européens. Cet acte, dit ses confrères, est un signe d'hypocrisie, car, ajoute-t-il, le mandat d'arrêt à l'encontre de Bosco Ntaganda ne date pas d'hier. La paix au Kivu étant aujourd'hui plus importante que l'essor de l'individu Ntaganda, écrit encore le journal. La tempête des tropiques indique par ailleurs qu'au sujet de cette intégration des militaires CNDP au sein de FARDC, les ex-rebelles encore fidèles à Laurent Kunda résistent à l'intégration. Citant certains responsables de ces mouvements, le quotidien souligne que l'ordre de leur intégration au sein de FARDC doit venir de Laurent Kunda. Autre sujet à la une des journaux chinois, le procès de Thomas Lubanga à la Cour pénale internationale. La rétractation du premier témoin invite le palmarès à conseiller la CPI plus de vérité et de certitude pour assurer la crédibilité de cette juridiction internationale. Terminons avec la destitution samedi dernier du gouverneur de l'Équateur, José Makila, par l'Assemblée provinciale. Pour le potentiel paru jeudi, en attendant l'issue du dossier à la justice et pour raison d'honneur, le gouverneur José Makila devrait se mettre à l'écart. La tempête des tropiques signale à ce sujet l'arrivée mercredi dernier du même gouverneur à Kinshasa. À son arrivée à l'aéroport d'Indivi, révèle le confrère, José Makila a été conduit par des policiers au ministère de l'Intérieur pour y être entendu sur les faits lui reprochés.
Bonsoir, Talala Chimankinda.
Bonsoir.
Vous êtes éditeur de l'hebdomadaire Tendance, par exemple ici à Kinshasa. Peut-être un petit commentaire par rapport à la revue de presse. Y a-t-il peut-être des thèmes qui vous ont paru importants qu'on n'a pas évoqués ou qu'on n'a pas sélectionnés pour cette tribune de la presse?
Bon, je crois qu'on a épinglé peut-être l'essentiel, mais je crois qu'on peut quand même mettre un petit accent sur la situation qui prévaut actuellement au sein des institutions de la République. Et je crois qu'au moment où nous parlons, on a relancé le dossier de la signature des députés pour avoir le nombre requis afin de convoquer une session extraordinaire, afin de permettre aux députés, aux élus nationaux de se pencher sur ce qui se passe à l'Est. Je crois que c'est une affaire assez importante, étant donné que la plupart des journaux qui ont été publiés dans la semaine ont essayé d'évoquer la dégradation des relations entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup, Kalan Chimankinda. Fidèle Moussango, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur du quotidien Le Phare, qui vous intervenez à partir de Goma, au nord Kivu. Le Phare est un quotidien qui paraît à Kinshasa. La même question, je vous la pose aussi. On n'a peut-être pas évoqué quelque chose d'important dans cette revue des presse.
Moi, je suis content avec la revue de la presse telle qu'elle est faite par notre confrère. Bon, d'autant que je suis en dehors de la ville, je n'ai pas toute la presse avec moi pour savoir ce qui se passe avec tout ça. Mais je sais que l'essence a été faite parce qu'il reste les problèmes de l'heure. Parce que, par exemple, la question de l'Est, la question de l'intégration, la question des opérations de ratissage contre les Libérables, c'est ça l'essence. Bon, la question des maquillages, ça, bon, il me semble évident, parce que là, il s'agit encore, j'en parlais tout à l'heure, c'est évident, là, il y a un intérêt de commune mortel.
Merci beaucoup, Fidel Moussango. Bonsoir, Magloire Paloukou.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de Radio Kivu 1, une nouvelle radio de Goma, justement au Nord Kivu, et vous intervenez à partir de cette ville du Nord Kivu. Est-ce que d'après vous, par rapport à l'actualité à Goma ou au Nord Kivu en général, on a raté quelque chose par rapport à cette revue de presse? Quelque chose qu'on n'a pas évoqué?
Ah oui, mais je suis surpris d'écouter. Enfin, la revue de presse, juste qui introduit notre émission, c'est tout à fait normal qu'elle soit assez rapide et qu'elle ramasse l'essentiel. Mais j'ai l'impression que ce que moi j'attendais pour demain, la conférence de presse annoncée du chef de l'État et qui devrait traiter de toutes les grandes questions de l'heure, n'a pas été reprise, à moins que je n'ai pas bien suivi. En tout cas, cette conférence du Joseph Kabila pour demain devrait avoir une bonne place pour aujourd'hui déjà.
Voilà, ben, on ne peut pas suffiser puisque la conférence de presse aura lieu demain justement à Kinshasa. Nous passons directement à notre premier thème. C'est depuis le mardi 20 janvier dernier que les troupes rwandaises sont entrées au Nord Kivu pour une opération conjointe avec l'armée congolaise contre les militants rwandais des FDLR. Quel est le bilan de cette opération après près de deux semaines d'opération? C'est la question que se posent beaucoup de Congolais. Justement, par rapport à cette opération, 36 personnes ont été tuées lundi dernier par les FDLR dans plusieurs villages, à cheval entre le sud du territoire de Masisi et de Walikale. Ces drames se sont déroulés dans les villages de Melembe, Mianga, Katambira et Nyamimba, en territoire de Walikale, et d'autres villages de Masisi dans le groupement Oufama du premier. Ces villages ont ensuite été systématiquement pillés par ces combattants. C'est ce que confirme un communiqué des Maïmaï Kifuafua du 27 janvier dernier. Didier Bitaki, porte-parole de ce groupe Maïmaï, demande à cet effet au gouvernement congolais de garantir suffisamment la sécurité des civils se trouvant dans les zones des opérations. Il a été joint au téléphone par Radio Okapi.
C'était en date du 26 janvier 2009. Aussitôt que l'FDLR avait suivi par les médias les différentes déclarations des groupes armés qu'ils adhéraient au processus de paix en travaillant aux côtés des FARDC afin de traquer l'FDLR, ils ont directement réagi négativement en se rendant dans différents villages et ils ont commencé à tuer tout Congolais qu'ils trouvaient sur leur passage. C'est ainsi qu'ils vont descendre dans différents villages. Ils ont commencé à tuer à bout des armes blanches, donc à bout de machettes, et ceux qui tentaient de s'enfuir, ils tiraient. Ce village est encore provisoire. Donc, il pourra s'alourdir davantage au fur et à mesure qu'on fait le décompte des cadavres.
Notons que d'autres sources administratives, à Masisi, centre, confirment ces attaques des FDLR contre des populations civiles dans les villages précités. Et elles signalent aussi la mort d'un haut officier FDLR tué mercredi dernier vers le village de Kibwa, toujours au sud de Masisi centre. Mais contacter un officier FDLR basé à Masisi a tout nié pour lui. Les FDLR ne sont pas responsables de ces tueries. Justement, Kalala Chimankinda, comment réagissez-vous face à cette opération conjointe armée nationale congolaise et forces de défense rwandaise deux semaines après? Le bilan est assez flou, hein? On parle de 9 à 12 morts parmi les FDLR.
Écoutez, d'emblée, je peux dire que ici, je prends l'adage qui dit on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Je crois que ceux qui ont pensé qu'en amenant les troupes rwandaises sur le territoire congolais en association avec les troupes de l'armée loyale, qu'on allait mener cette opération, là, ça qui est le coulement du sang, je crois que c'était une façon de rêver. Pour l'instant, je crois que, comme on l'avait dit un peu dans ce qui s'est passé à la partie de la province orientale, lorsqu'on avait organisé la traque contre les gens de l'ERA, je crois que ceux qui décident ces genres d'opérations doivent mettre en place des plans de telle sorte qu'on sait localiser à l'avance là où se trouve l'air et on sait que lorsqu'on va mener la traque, de quel côté ils peuvent se diriger. Et de cette façon-là, on dégage, on déménage les populations civiles, ou bien on amène des forces pour les encadrer, de telle sorte que quand ceux qui vont sortir avec des armes ne viennent pas perturber leur quiétude, ne viennent pas facilement tuer des gens innocents. Donc,
on a l'impression que ce qui se passe avec la ILERA ou dans la province orientale commence petit à petit à se.
Avant de venir sur le plateau, j'étais en contact avec un des leaders de Dungu qui est sur place. Il m'a confirmé que la situation est en train de s'améliorer. Pour l'instant, je crois que les gens de Joseph Kony se trouveraient pratiquement dans les bases où elle est et qu'on est en train de les traquer. Peut-être que demain ou après-demain, la situation pourra s'améliorer. Sauf que sur place, on déplore le fait qu'on ne voit pas l'assistance du gouvernement central. Que cela ne tienne, il faut revenir à ce qui se passe dans les Nord Kivu pour dire qu'avec l'expérience de la province orientale, on pouvait déjà envisager qu'il pouvait y avoir la mort ou le massacre des civils innocents et on pouvait déjà trouver des voies d'évacuation ou préparer des couloirs de telle sorte que lorsque ces gens-là sont traqués, qu'on les amène dans un couloir, à la rigueur, on les arrête ou je ne sais pas quel est le plan qui est prévu au bout. Et si on ne les arrête pas, on les met d'une autre manière au détail des nuits, on les arrête, on les met dans des camions, on les amène chez eux. Au contraire, ou si il faut les tuer, on les tue. Parce qu'en 15 ans d'existence dans ces territoires-là, ils ont causé assez de massacres.
Voilà. Fidel Moussangou, 36 personnes ont été tuées, donc lundi dernier par les FDLR. On a l'impression que ce sont des représailles contre cette opération conjointe FRDC, Force de défense rwandaise, contre les militants auto-rwandais.
D'abord, en tant que Congolais, je déplore la mort de mes compatriotes, surtout des populations civiles armées innocentes. Qu'elles soient tuées par les citoyens ou le FRDC, les forces coalisées, ce sont des morts de plus pour mon pays. Mais sur le plan des objectifs déjà atteints, je me réjouis d'une chose. Parce que ce problème maintenant est traité de manière beaucoup plus responsable par les deux pays qui seront aussi le fait que celui-ci héberge les Nicaraguains et celui-là finance la rébellion. Maintenant, les deux pays seront de plus niveau et n'ont pas droit à l'erreur ou à l'échec. Et connaissant maintenant le sérieux qui a été placé dans ces opérations, je suis sûr qu'il y aura du sérieux. Et dans les situations professionnelles, la ILERA est en débandade. Et c'est vrai qu'il y a maintenant les ILERA aussi en débandade. Parce que même s'ils tuent, mais ce sont des appels des repérages qui sont permanents, pas permanables. Ça montre que ce sont des forces
Mais on aurait quand même, comme l'a dit Kalala Chimankinda, le gouvernement ou l'armée nationale aurait pu prévoir cela, comme cela se passe déjà à Dung ou dans la province orientale, prévoir peut-être des mesures pour protéger les populations contre des éventuelles représailles de la part des FDLR.
Voilà, on ne peut pas prévoir de ce genre d'opération. On lance des opérations. On a lancé le tel FDLR. De pouvoir, donc, d'opter les armes et de rentrer, par exemple, sur protection d'un groupe qui rentre chez eux. Ou de poser des armes et se mettre à la protection de la police et de demander la vie politique. Sauf que je n'ai pas. On ne doit pas défendre des villages, et des villages, il y en a combien? Eh bien, si les FN ne veulent pas, eh bien, ils auront affaire à des armées, cette armée qui les poursuit. Et ils méritent moins dans le terme des génocidaires. Et ils sont beaucoup plus condamnables. Si les FNR peuvent être plus que ce qu'on appelle remercier les Congolais de nous avoir reçus depuis 15 ans. Et c'est juste qu'il y a un peu de la gratitude. Eh bien, il y a un peu de gratitude. Aucun pays au monde, là je parle, je dis, bon, non, non, ce qui joue, le lundi, quand il y avait le groupe des manifestants conduit par la FEC, bien, aucun pays au monde ne peut accepter des réfugiés armés dans son pays.
Mais, Fidel, excusez-moi, avant de continuer là, parce qu'on ne vous entend pas très bien, est-ce que vous pouvez vous déplacer, si vous êtes à l'intérieur d'une maison, est-ce que vous pouvez sortir pour qu'on puisse bien vous capter? En attendant de revenir à vous, nous avons également en ligne, depuis le...
Et moi, je vous suis bien.
Ok, si vous pouvez vous déplacer un peu, le temps qu'on revienne à vous. Magloire Palouko, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Vous êtes directeur général de Radio Kivu 1, une nouvelle radio de Goma. Votre réaction par rapport au bilan, justement, après près de deux semaines d'opérations conjointes entre l'armée nationale et les forces de défense rwandaises contre les militants auto-rwandais et des FDLR.
Bon, je ne sais pas s'il faut déjà parler du bilan ou pour les deux semaines. Je pense qu'en suivant le mouvement tel qu'il a été lancé, il faut peut-être croire que le bilan ne pouvait pas être satisfaisant en deux semaines. Les gens qui se sont installés dans le pays armé pendant 15 ans, on ne les déloge pas en deux semaines. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a dit des localités ont été récupérées par les FARDC. C'est la nouvelle à envoyer, d'ailleurs, sur Radio Okapi cette semaine. Bon, je crois que le bilan lui-même doit être mitigé. Il ne faut pas s'attendre. Je pense qu'ils sont au stade des préparatifs ou des préparations ou d'installations ou des connaissances de terrain. Je rebondis aussi sur les accusations de Maïmaï Kifouafoua sur les FDLR qui ont tué 38 personnes.
Allez-y, 36 personnes.
36 personnes, pardon. C'est pas la première fois que les FDLR tuent, donc c'est pas le moment de chercher à faire passer d'abord ce que les FDLR ont tué cette semaine. Et puis on ne dit pas précisément dans quelles circonstances les personnes ont été tuées. C'est celui qui, les Maïmaï Kifouafoua ne sont même pas encore signataires pour suivre la traque des FDLR. Je pense que parler de bilan en ces deux semaines, nous serons obligés de parler des choses assez maigres qui ne vont pas dans le sens de critiquer objectivement ce qui pourra être des grandes opérations parce que quand même ils vont pas prendre seulement deux semaines, j'imagine.
Si nous faisons la comptabilité, ces opérations ont déjà pris 11 jours, donc en principe le Rwanda avait demandé 15 jours. Vous pensez que dans les 4 jours restants, cette opération pourrait produire les fruits ou les résultats attendus?
Il faut retenir qu'après avoir donné ce communiqué que les opérations prendraient deux semaines, et il y a eu un autre communiqué de deux forces conjointes, les forces rwandaises et FARDC du Congo, on dit que même le président de la République, quand il a reçu le premier ministre et les deux honorables présidents du Parlement, ils ont dit que chaque période sera suivie chaque deux semaines sera suivie d'une période d'évaluation. Donc, vous comprenez que l'évaluation elle-même que nous faisons avant entre dans les temps, même qu'il faudra que la présence des troupes rwandaises reste en nous. Donc, il faut pas s'attendre que ça prenne un mois ou deux mois. Ça sera un travail de longue haleine, à mon avis, quoi.
Voilà. Fidèle Moussangou, je reviens à vous. Peut-être en une phrase, compléter ce que vous n'aviez pas terminé, puisqu'on avait des problèmes de communication. Puisqu'on devait aussi parler de l'intégration des troupes du CNDP qui s'est faite hier jeudi à Rumangabo Nord Kivu.
Écoutez, vous me suivez maintenant?
Oui, on vous suit parfaitement.
Bon, c'est-à-dire que j'aurais dit ceci, c'est que ces opérations vont prendre du temps. Il s'agit d'un problème de paix entre deux États et à l'intérieur du Congo. C'est juste que ce sont des affres de ces interams. Et maintenant, si c'est vrai que ces interams se sont encore attaqués aux personnes civiles innocentes, eh bien, ces interams donnent des éléments que ce sont des formes génocidaires. Que parce que s'en prend à des populations qui les ont accueillies pendant 15 ans. C'est vraiment une marque d'ingratitude inexplicable, injustifiable. On parle de quelque chose pareil. On leur demande de déposer les armes et de se comporter comme des réfugiés normaux. Mais ils veulent continuer à régler la matière. Là, il faut payer le prix le plus élevé. Bon, ça c'est un deuxième élément, ces opérations. Et vous le dites, vous ne sais pas avec tout le sérieux. Je suis à Goma ici, je vois comment le chef-d'état-major général est au four au moulin, le commandant est au four au moulin, le gouverneur, les ministres aussi sont tout le temps à Rumangabo, à l'intérieur, pour suivre ça. Et très bien, il y a du sérieux. Et puis, les deux gouvernements n'ont pas droit à l'échec. Personne ne peut, donc ni Kagame, ni Kabila, personne n'a droit à l'échec.
Donc vous êtes optimiste, hein, optimiste quand...
Je suis optimiste, mais sans le sérieux qui anime le président Kabila, moi, les militaires, nous sommes en général les défis.
Mais Fidèle Moussango...
Et connaissant le sérieux.
Fidèle Moussango, s'il vous plaît, l'armée rwandaise avait occupé la partie est du pays pendant 5 ans, hein, de 98 à presque 2003, mais elle n'a pas, c'est qu'elle n'a pas pu faire en 5 ans. Est-ce que vous pensez qu'en 2 semaines, elle pourrait le faire, même avec le concours de l'armée nationale congolaise?
Donc pendant les 5 ans d'occupation aux côtés du RCD, le RCD et l'armée rwandaise avaient éliminé, je dirais, 3 quarts des forces militaires. Et une partie était une renfort rwandais. La plupart, évidemment, ils ont récupéré toutes les villes et ils sont donc réduits à rester à l'intérieur de la forêt. Ça, il faut le signer. Donc la menace de Rome n'est plus comme elle était au départ en 2004.
Merci.
Les 100 000 hommes, les 40 000 hommes, là, une partie a été détruite et une partie en forêt. Mais beaucoup ont vieilli ou sont morts de maladie.
Merci beaucoup. Matoua Paluku, vous qui êtes au nord Kivu, finalement, ces opérations contre les FDLR, c'est pour diriger les FDLR vers la frontière rwandaise ou bien ces opérations les enfoncent encore dans les forêts congolaises où, ces forces FDLR pourraient s'attaquer aux populations congolaises? En une phrase, hein, s'il vous plaît.
Bien, je viens de suivre d'abord, je viens de faire un reportage pendant 3 jours où j'ai suivi la campagne d'explication des ministres venus de Kinshasa. L'objectif n'est pas la traque, l'objectif ne serait pas seulement de tuer les FDLR ou de les attaquer par les armes. L'objectif c'est aussi d'expliquer à la population, d'expliquer aux FDLR qui doivent rentrer. Et c'est comme ça qu'il faut prendre le contexte. Il faut toujours séparer par l'attaque militaire et la conscientisation qui doit passer aussi par la radio. D'ailleurs, on a pris le taux depuis plusieurs années. Et c'est ça, c'est le bilan lui-même, le débat, c'est ça, doit aller même sur la responsabilité des FDLR eux-mêmes.
Mais finalement, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Ces forces sont dirigées vers la frontière rwandaise ou bien on les fait rentrer vers les villages congolais?
Excusez-moi, il y a des avions qui passent. L'objectif, je reprends, l'objectif ne serait pas de les diriger vers la frontière rwandaise, ça serait suicidaire, parce que si vous comprenez la géographie, vous prenez quelqu'un qui est à Walikale, vous voulez le faire traverser au Rwanda, il doit passer par Masisi et Goma, alors il ne doit pas emporter tout le monde. J'ai appris, et c'est très important, que cette question de les sensibiliser pour qu'ils quittent eux-mêmes, les deux provinces, le Nord et le Sud-Kivu, et qu'ils choisissent une autre province où ils peuvent vivre ou un autre pays. C'est ça l'objectif.
Merci beaucoup.
En tout cas, ça fait venir de la bouche des ministres venus de Kinshasa.
Merci beaucoup. Vraiment, en une phrase, Kalala Chimankinda, concernant l'intégration des éléments du CNDP, hein, et c'est passé hier à Rumangabo, il y a eu quand même un fait qui a retenu l'attention des journalistes, hein, l'attitude de la communauté internationale, notamment la facilitation de l'Union européenne, et qui a préféré se déclasser lorsque devait arriver Bosco Ntaganda, qui est le chef adjoint des opérations des FARDC à l'est du pays. Comment votre réaction?
Écoutez, tout en n'étant pas d'accord avec la formule de brassage ou de lissage, là je vais revenir, mais là je n'apprécie pas, à mon avis, l'attitude des représentants de la communauté internationale. Je crois qu'ils ont tout intérêt à nous emmener vers ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Je crois que si le gouvernement de Kinshasa estime qu'il peut, dans un moment, à un moment, faire un deal avec Bosco pour atteindre un objectif à court, moyen ou long terme.
Mais il a quand même un mandat d'arrêt.
Mais le mandat d'arrêt, n'oubliez pas que Germain Katanga et Martin Goyolou sont allés à la CPI en quittant l'Ituri. Ils sont venus à Kinshasa, on les a lavés, on les a portés les gars. Non, des colonels, et on les a amenés à Kitona pour la formation, et de là, on est venu les pendre pour les amener à la haie. Donc, Non, mais écoutez, si Bosco Ntaganda n'était pas être pris comme adjoint, on ne sait pas aujourd'hui, Ntaganda a joué d'abord un rôle. Donc, nous sommes dans une structure où tu me donnes, je te donne. Il nous a rendu un service, entre guillemets. Il a rendu à Kinshasa un service, entre guillemets. C'était d'abord d'affaiblir Laurent Kunda avant qu'on vienne le prendre. Et puis, le lendemain, on l'a dit, on lui a donné le pouvoir. Tout ça est fait dans l'optique de ramener d'abord la paix. Les restes, on le fera apprécier. Il y a un serpent qui a dans votre maison, je crois que même si on s'était chamaillé avec madame, la première opération à faire, c'est de tout faire pour mettre le serpent hors d'état de nuit. Lorsqu'on aura mis le serpent hors d'état de nuit, à ce moment-là, nous allons revenir à nos différends. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi ça représente être chef d'état-major adjoint des opérations, ce n'est pas être chef d'état-major adjoint des forces armées congolaises, c'est juste pour ce qui se passe à l'Est. Lui qui a une emprise sur les troupes qui ont combattu l'armée nationale, il peut avoir un mois d'huile sur ces troupes-là avant de les brasser et de les mettre ensemble. Et ici, je veux dire à ce que j'ai dit au début, les brassages et les mixages nous ont porté assez de problèmes. Je crois qu'aujourd'hui, comme on l'a vu dans tous les pays du monde, lorsque une armée se révolte, on ne fait jamais des mixages ou des brassages avec des gens qui se sont combattus hier. Ils finiront, on les a vus s'embrasser à la télé, mais ils finiront toujours par s'estionner mutuellement.
Fidèle Moussangou, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du quotidien Le Phare, par exemple, ici à Kinshasa, mais vous intervenez à partir de Goma au Nord Kivu. En résumé, hein, vraiment, votre réaction par rapport à l'intégration des troupes CNDP qui s'est faite hier à Rumangabo et aussi par rapport à l'attitude de la communauté internationale vis-à-vis de Bosco Ntaganda.
D'abord, je vous annonce que j'étais à Rumangabo, moi-même, je suis arrivé avec des ONG, j'ai suivi le mouvement, parce que j'ai déploré le comportement cynique, hypocrite de ce qu'on appelle la communauté internationale. Vous savez, nous avons un problème de paix. C'est depuis de 20 ans que le pays souffre de guerre. Et cette communauté internationale n'a rien fait pour nous aider à la réponse de cette guerre. Même rien. Ça, je ne suis pas familier de l'amour. C'est au nom de cette communauté internationale que les libéraux sont arrivés dans notre pays. Mais là, pour le faire partie, nous avons une occasion à nous unique pour mettre fin pour que notre population congolaise de l'Est puisse vivre en paix comme les autres populations du Congo. Eh bien, ils sont en train de faire la communauté internationale. Mais qu'on réfléchisse un peu. Que tu sois la coupe de l'armée, je crois. Mais ça, ça devient un tribunal politique. Quand vous êtes en fond, le mandat a été mis contre qui? On a commencé au Congo, on a fait du Congo de voir un champ d'expérimentation de leur coupe d'internationale. Avec un problème de n'importe quoi.
Merci.
Donc, ça, le problème pour nous, c'est pas l'agenda, s'il vous plaît. Le problème pour nous, c'est la paix.
Voilà, on vous a compris, Fidèle. On va clôturer ce dossier rapidement avec Magloire Paloukou. Je rappelle que vous êtes directeur général de Radio Kivu 1, une nouvelle radio de Goma. Est-ce que les besoins de la RDC de rétablir la paix dans les deux Kivu peuvent se marier avec ceux de l'Occident qui tient à tout prix à punir tous les criminels de guerre où qu'ils se trouvent?
Bien, ça, c'est dire une chose de son contraire, la réaction de la communauté internationale. Ces gens, moi qui fais plusieurs reportages du côté de Laurent Kunda, c'est la communauté internationale savait où était Bosco Ntaganda. Ils l'ont vu parce qu'ils dirigeaient l'armée de Laurent Kunda. Ils étaient avec lui tout le temps, ils venaient ici et ils partaient chez Kunda. Et comment aujourd'hui ils peuvent dire de ne pas prendre rester là où il est? Ben, c'est hypocrite. Et puis, j'ai oublié, je termine par là. C'est oublié ce que le ministre lui-même, le ministre de l'Intérieur, qui est l'artisan de cette signature, avait déjà dit. Il a dit officiellement dans un hôtel ici que Bosco Ntaganda doit savoir que le pardon existe. Or, c'est l'État qui envoie son criminel à la Cour pénale internationale. Si l'État congolais a pardonné à Bosco Ntaganda et alors la communauté internationale, c'est vraiment un coup de pied dans l'eau, quoi.
Magloire, vous êtes optimiste quant à la réussite de l'intégration des troupes CNDP, comme l'a dit le général Numbia, le chargé des opérations de l'Est, il est optimiste car pour lui, la RDC et le Rwanda ont décidé de pacifier la région des Grands Lacs pour favoriser le développement dans la région des Grands Lacs. Donc il n'y a pas de commune mesure entre cette intégration et ce qu'on a appelé le message.
Bon, je ne suis pas optimiste. Je le souhaite. ces différents être optimiste et participer dans ces opérations. Mais moi, je souhaite que ça réussisse, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les camps des déplacés de guerre.
Merci beaucoup. Nous passons à notre deuxième thème, qui est le procès de Thomas Lubanga à la CPI, commencé le lundi 26 janvier dernier. Reprise de l'audience de Thomas Lubanga ce vendredi matin à la CPI aux Pays-Bas. Avant d'entendre le témoin numéro 3, la Cour a étudié toutes les garanties de sécurité qui doivent entourer le témoin lors de sa déposition. Pour ce faire, la Cour a recouru au texte juridique de la RDC de la CPI en la matière. En ce qui concerne la RDC, le bureau du procureur a assuré que les témoins ne feraient pas l'objet de poursuites judiciaires à l'issue de leur déposition. Néanmoins, il a demandé aux juristes de prodiguer des conseils pertinents à leurs clients par rapport à l'auto-incrimination. Quant aux avocats de Thomas Lubanga, ils ont relevé les problèmes liés aux traductions des textes par les interprètes. Ils ont aussi fustigé les pertes d'informations lors des traductions. Et la Cour a souhaité que la défense fasse la différence entre les problèmes mineurs d'interprétation et les grosses difficultés que pose l'interprétation en soi. Toutefois, la Cour a déclaré que ce problème devra être résolu. Rappel de la séance hier jeudi avec notre envoyé spécial sur place à La Haye, Yévin Gwinga.
Le bureau du procureur a été clair. Le premier témoin aurait reçu des menaces, d'où ses signes d'ébranlement psychologique hier face aux questions du bureau du procureur. À la question posée par la Chambre, notamment sur le genre de menaces reçues par le premier témoin, le bureau du procureur a déclaré vouloir conclure d'abord ses enquêtes en vue de s'exprimer sur cette question. Argument qui n'a pas convaincu les avocats de Thomas Lubanga. Pour eux, la déposition du premier témoin devait se poursuivre puisqu'elle se déroulait dans de meilleures conditions. Les avocats ont d'ailleurs demandé le rappel du témoin numéro 1 à la barre afin qu'il s'exprime lui-même sur les menaces qu'il aurait reçues. Ce bureau a aussi mis en garde la Cour contre le raidissement de certains témoins qui, dans l'avenir, pourraient changer de comportement par peur des sanctions après une déposition. Du côté de la Chambre, le juge président a tenu à avoir des preuves sur les menaces dont sont victimes les témoins. Il a demandé à l'unité de protection des victimes de faire une déposition pour que les témoins fassent leur déclaration prochainement dans des conditions favorables sans contraintes extérieures. Pour ce faire, il a souhaité que l'identité des témoins soit gardée et qu'aucun individu ne soit en contact avec eux à part leur conseil. Vu toutes ces difficultés relevées, la Cour a décidé de suspendre l'audience pour entendre le troisième témoin ce vendredi. De La Haye aux Pays-Bas, Yévin Gwinga, Radio Okapi.
Merci beaucoup Yévin Gwinga. Donc les deux thèmes que nous allons aborder seront un peu courts parce que le premier thème nous a déjà pris beaucoup de temps. Nous allons commencer par Goma avec Fidel Moussangou. Votre réaction par rapport à ce procès, quand même l'un des faits marquants de cette semaine, c'est que l'un des témoins qui accusait Thomas Lubanga de l'avoir enrôlé dans sa milice se dédie. Comment vous réagissez par rapport à ce couac?
Écoutez, il y a d'abord une chose. Moi, d'emblée, je vous dis d'avance que je sais que cette cour pénale a un rôle purement politique. C'est pas un cour judiciaire. Le comportement du procureur également. Parce que lui, il s'acharne aux gens sans qu'il y ait suffisamment de preuves. C'est un deuxième élément. Regardez comment les gens chantent. Ça dit qu'on ne saura jamais la vérité. On ne connaîtra jamais la vérité. Mais la vérité que lui a voulu cacher, lui, M. Montego, c'est le fait qu'il y a le document frappé des confidentialités par la cause à la Cour suprême et démontre que Thomas Lubanga avait commencé les opérations de démobilisation des enfants depuis 2001 en accord avec la monnaie.
Fidèle, nous sommes, s'il vous plaît, je voudrais simplement vous compléter en disant que le bureau du procureur a déclaré que les témoins auraient reçu des menaces.
Oui, c'est lui qui déclare ça. Monsieur Mouroumé, c'est un personnage quand même assez bizarre. Hein. C'est lui qui déclare ça. Parce que lui, il fait sa charge, il fait avoir la tête des gens pour rien, pour justifier son travail. C'est le plus mauvais procès que j'ai dit. C'est pas mes plus avantageux. Je suis désolé.
Ce n'est pas méchant, ça. Est-ce que vous pouvez retirer ce n'est pas méchant?
Non, je dois écouter, surtout moi, je lui ai dit, je ne sais pas quand je l'ai vu. Je lui ai dit ouvertement, je lui ai dit, monsieur, un comportement d'un type qui n'est pas juste. Vous avez toujours votre droit, vous. Deuxième élément, vous
avez. C'est quand même trop dur, hein. Allez-y.
Lubanga a des documents, des preuves qu'il avait commencé les opérations de démobilisation en 2001. Toutes les armées du monde ont utilisé un enfant soldat, même l'armée nationale congolaise, le FD, le MSF, tout le monde a utilisé un enfant soldat.
Par là, vous voulez dire que vous soutenez Thomas Lubanga dans qu'il a fait le recrutement d'enfants?
Écoutez, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, il n'est pas le premier à faire. Tout le monde l'a fait. Il y avait des enfants sur le
RCD. Est-ce que parce que tout le monde l'a fait, il faut le soutenir?
Nous, écoutez, je ne suis pas majeur avec que ce qu'on fait est injuste. D'abord, sur l'arrestation, il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Thomas Lubanga était déjà en détention provisoire à Makala, où il devait subir les rigueurs de la justice congolaise. On est allé le chercher de la paix. Or, la chute même dit que si une personne se trouve entre les mains de la justice de son pays, la Cour pénale arrête ensuite. Thomas était entre les mains de la justice congolaise.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps.
Je vous réponds, je dis clairement que ce n'est pas souhaité, mais moi, je remets la chose comme elle se fait. Il s'agit d'un enlèvement. Et les avocats vont le dire.
Merci beaucoup.
Vous le dire ouvertement.
Merci beaucoup. Magloire Paluku, qu'est-ce que votre réaction par rapport à ce premier procès de la Cour pénale internationale?
Moi, je dis que la communauté internationale est en effet, de, en tout cas au niveau juridique, au niveau des juges, les criminels, présumés criminels. Mais l'erreur que j'ai remarquée, moi, hier, avec ce témoin qui s'est dédié, il y avait un film qu'on a montré, d'enfants. Est-ce que tous ces enfants sont morts? Pourquoi ne pas prendre un enfant qui est dans le film et qui est témoin? Quand on prend un enfant qui n'est pas dans le film lui-même, qu'on montre comme preuve tangible, mais il peut se dédire, mais s'il y avait un enfant qui est dans le film, on pourrait ne pas dire le contraire.
Mais c'est peut-être pour protéger, c'est peut-être pour protéger cet enfant, s'il est dans le film, il sera
protégé. Mais s'il se dédie, et puis pourquoi protéger un enfant qui doit être témoin? Pourquoi masquer un témoin d'un enfant qui souffre de ce qu'un artiste dit, on m'a volé mon enfance? C'est quand même quelque chose de grave que de présenter un garçon anonyme et qui on dit il a été utilisé, et puis comme ils disent le contraire, on dit après qu'il a été menacé. Non, chercher des enfants qu'on voit dans le film, c'est, mais quand même, la communauté, enfin la Cour pénale internationale, pourquoi jouer à l'amateurisme jusqu'à ce niveau?
Merci beaucoup, Khaled Chimane, qui nous va conclure ce deuxième thème avec vous en une minute, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, en une minute, je voulais seulement souligner des choses, c'est que nous, les Congolais, nous voulons une chose et le contraire. Lorsqu'on a signé les statuts de Rome instaurant la Cour pénale internationale, on devait savoir que nos compatriotes ou d'autres Africains ou d'autres citoyens du monde allaient subir la rigueur de la loi. La deuxième chose que je veux souligner à ce stade, c'est de relever le fait que lorsqu'on a commencé ce procès, vous avez suivi à Bounia, où il y avait un écran géant et il y a eu des problèmes parce que les gens n'ont pas accepté qu'il y ait des témoignages contre Thomas Lubanga. Et étant donné que Bounia c'est son fief, je suis sûr, et j'ai mis quiconque à défi, et de montrer que parmi les gens qui sont allés à la haie pour témoigner contre Thomas, sans doute qu'à Bounia, il y a des gens qui savent que telle famille a envoyé quelqu'un et telle famille a délégué son enfant. Donc, on peut y avoir des répressions à ce niveau-là. Donc, si on peut protéger les témoins qui va témoigner au niveau de la haie, mais sa famille qui reste à Bounia ou dans la province orientale ne sera pas épargnée. Et là, il y a des représailles parce que n'oubliez pas que l'UPC est toujours sur le terrain comme parti politique. Aujourd'hui, et comme milice, il y a toujours des gens qui se réclament de Thomas Lubanga et qui peuvent nuire.
Merci beaucoup, Kalala Chimankinda. Terminons cette tribune de la presse avec la motion de défiance votée samedi dernier contre le gouverneur de l'Équateur, José Makila, par son assemblée provinciale. Il est accusé de malversation financière dans l'affaire de 2,7 milliards de francs congolais, qui représentent près de 4 millions de dollars, destinés aux entités territoriales décentralisées de l'Équateur. Ce montant ne serait pas arrivé à destination. Et sur les 98 députés présents à cette séance, 63 ont voté contre lui et 35 en sa faveur. La procédure de destitution d'un gouverneur par l'Assemblée provinciale indique que ce dernier doit d'abord être entendu pour présenter ses moyens de défense avant d'être destitué. Mais en cas de non-respect de cette procédure, le gouverneur a raison d'attaquer cette décision devant la Cour constitutionnelle. Explication avec Jean-Louis Essambo, chef des travaux à l'Université de Kinshasa et président de l'Association des constitutionnalistes de la RDC. Il est interrogé par notre confrère René Capita.
le gouverneur de province est justiciable de la Cour de cassation. Cour de cassation dont les attributions sont actuellement et provisoirement exercées par la Cour suprême de justice. En ce qui concerne le problème de la province de l'Équateur, nous avons appris que le gouverneur a été destitué par 68 voix contre 31 voix. La procédure indique que le gouverneur doit avoir été invité à l'Assemblée provinciale pour présenter ses moyens de défense. Si cette procédure a été respectée, le gouverneur démissionnaire doit pouvoir rendre le tablier et procéder à la remise de reprise avec le gouverneur de province en attendant que dans les 15 jours, la commission électorale indépendante puisse organiser des élections de gouverneur et vice-gouverneur. Mais si le gouverneur n'a pas été invité à présenter ses moyens de défense de l'Assemblée provinciale, il y a alors vice de procédure. Le gouverneur est donc fondé à pouvoir attaquer cette décision devant la Cour constitutionnelle.
Voilà, donc vous avez une minute et demie chacun pour réagir par rapport à cette actu hein, qui a quand même aussi intéressé les journalistes cette semaine à Kinshasa notamment. Nous commençons d'abord par vous, Magloire Paluku.
Bien, je pense que quand vous m'avez parlé de ce thème, j'ai essayé de chercher les dernières informations ou alors ce qui s'est passé. Il paraît que José Makila aurait refusé de venir d'ailleurs à l'Assemblée provinciale. Il aurait même refusé de recevoir certains enquêteurs. Mais je pense qu'il est digne pour quelqu'un comme José Makila qui est un type averti, un type de MLC avec une carrière, une stature qu'on reconnaît d'intellectuel, un gouverneur accusé de vol de plus de 4 millions de dollars, comme ça, ça démissionne d'abord. Ça se voit ailleurs, aux États-Unis, en Europe, ça démissionne et puis ça suit son cours, le cours normal de ses accusations. Ça permet d'être quand même digne dans ce pays. On vous accuse comme ça, les gens que vous accusent n'ont pas toujours tort ni raison, mais c'est question de dignité personnelle.
Est-ce qu'on lui a donné tous les moyens de défense, notamment à l'Assemblée provinciale pour se justifier? Je vous apprends aussi qu'il a saisi la cour d'appel de Mbandaka pour casser cette décision, cette motion de défiance.
Je proposerais, si j'étais lui à sa place, comme ça se fait partout, un homme digne, un gouverneur accusé de vol, c'est quand même une honte provinciale et nationale. Il n'a qu'à démissionner et suivre le cours du procès normal et de se défendre. Enfin, il ne va pas se défendre en restant gouverneur voleur accusé de vol, entre guillemets.
Merci beaucoup, Fidèle Moussangou, en 1 minute 30, hein, rapidement, vraiment, votre réaction par rapport à cet actu.
D'abord, je remarque que, demander à tous les juristes, le droit, c'est d'abord la procédure. Et comme la procédure a été violée, si on les arrive, par le fond. Et rien que ça, ma fille est sauvée. On n'a même pas gagné. Le premier, le gouvernement de Kassa Occidental, Kapoukou, avait été sauvé dans le mandat. Les gens se précipitent à sanctionner. C'est la passion qui a prévalu au niveau de l'Assemblée provinciale. Et il y a une main derrière, il y a des gens qui veulent cette machine-là. C'est le problème qu'il y a. Alors ici, il est fait, la Cour suprême doit reblanchir. Ça, c'est fini. Donc, il faut que le présentateur national de convention lise correctement le règlement et le régime. Il faut commencer par la passion, la vie, selon des athéroïdes, on demande quelqu'un sans avoir le point. 4 millions de dollars, ils arrivent comment? Est-ce que vous voulez tous l'argent, comme des comptables d'État? L'argent a été envoyé comment? Qui le lui a remis? Quelle est la preuve? Vous rappelez à l'Assemblée nationale qu'il y avait une passion, et cette passion,
Merci beaucoup.
Donc, bref, ici, je dis que sur le plan de la forme, la procédure a été donc violée, et le fond ne sera pas examiné.
Merci beaucoup.
Sur le plan du fond aussi, il y a un problème politique. Le comportement des députés de la province de l'État est étonnant.
De la province et de l'Équateur, c'est ça. Merci beaucoup.
C'est un comportement qui est vraiment qui est fini.
Merci beaucoup.
Le linge sale, c'est la famille.
On a plus beaucoup de temps, excusez-nous, fidèles. Kalala Chimankinda, on va conclure avec vous.
Écoutez, je suis tout simplement étonné de la réaction de Fidèle. qui soulèvent des procédures. Ici, nous savons comment on détourne l'argent dans ce pays. Si un gouverneur de province demande au comptable d'État affecté au gouvernorat d'amener de l'argent, je ne vois pas comment le comptable peut refuser. De deux, nous savons tous qu'à part cette affaire qui a surgi au niveau de l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur, José Makela avait déjà un dossier qui ne pouvait pas les lâcher au niveau de l'Assemblée nationale. Toujours un pomme d'argent, l'argent destiné à la paye des enseignants du district de Sidoubani, qui est d'ailleurs sur son chef électoral. Donc ici, je crois que nous devons cesser de tout, chaque fois qu'il y a un dossier ou une autorité politique est concernée, de passionner les débats. Nous devons dépassionner les débats. Nous connaissons les hommes politiques dans ces pays et nous connaissons aussi leurs mères. José Makela a été ministre des Travaux publics. Tout le monde sait dans quelles conditions il est parti de là. Donc, qu'on cesse de faire croire aux gens que parce qu'il y a eu des problèmes de procédure, donc il faut mettre des gants. Les gens volent, on doit les sanctionner.
Merci,
et c'est
beaucoup.
Ça les droits.
Merci beaucoup. C'est ça les droits. C'est avec ces mots que nous terminons cette tribune de la presse. Merci à mes confrères Carla La Chimankinda de l'hebdomadaire Tendance, Fidèle Moussango du quotidien Le Phare et Magloire Paloko de Radio Kivu 1 de Goma. Jean-Claude Toumata m'a réalisé cette émission avec le concours de Kéline Kouté, Pierrot Elamegi et Guy Maté. Sylvain Mafindou était à la technique. Bon week-end à tous et surtout n'hésitez pas à rester branchés sur Radio Capi. Au revoir.